Le Salon Noir. L'archéologie est-elle la mémoire de nos villes? Très probablement. L'histoire nous dit toutefois que nos villes de France ont des origines variées. Pensons à Marseille, grecque et la plus ancienne, mais aussi Angers, Autun, Fréjus, Narbonne, aux origines romaines. Dans ce cas, qu'en est-il de Paris, Nantes, Saintes, Beauvais ou Reims, toutes portant le nom de puissantes cités caractérisant des peuples gaulois? Parce que le Salon Noir suit l'actualité, nous nous pencherons aujourd'hui sur l'une d'entre elles et non des moindres, puisque vient de se dérouler une très vaste fouille sur plus de 2 hectares dans le centre urbain Toulouse, qui révèle aujourd'hui l'histoire des Volques Tectosages, ceux-là même qui pillèrent le sanctuaire de Delphes et s'emparèrent d'un formidable trésor qui donna peut-être naissance à la légende de l'or de Tolosa. Pour parler de Toulouse des Gaulois, 2 invités, Michel Vaginet et Peter Jude, bonjour.
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 De la Bretagne à la région Midi-Pyrénées, Michel Vaginet, vous êtes conservateur régional de l'archéologie. Voici fort longtemps que nous avons fait connaissance et que je garde un émouvant souvenir des recherches que vous aviez gérées à Oxulodunum, la dernière bataille de la guerre des Gaules, la révolte des Gaulois, la répression romaine qui coupa quelques 4000 mains. Peter Jude, vous êtes archéologue suisse de la société Archéodunum, est surtout le fouilleur de ce vaste site gaulois qui vient d'être exhumé à Toulouse sous une ancienne caserne, la caserne Niel, soit 2,5 hectares de vestiges gaulois, depuis peut-être cérémoniels, voire sacrificiels, nous verrons tout ça, de milliers d'amphores. Michel Vaginet, revenons sur un peuple capital dont je ne sais rien. Qui sont les Volques Tectosages?
Alors, les Volques Tectosages, nous en savons ce que les auteurs grecs et latins nous en ont laissé, c'est-à-dire somme toute peu de choses. Nous savons par le géographe grec Strabon, donc un peu qui écrit un peu avant notre ère, mais qui reprend des sources plus anciennes, que les Volques Tectosages étaient un grand peuple de la région toulousaine, dont l'une des principales villes, sinon la capitale, était Tolosa, Toulouse. Et au passage, Toulouse est sans doute une des rares villes actuelles en France à avoir gardé le même nom depuis plus de 2000 ans, ce qui n'est pas rien. Nous savons aussi par Strabon que ces Volques Tectosages, on les retrouve en Orient, on les retrouve dans la région de l'actuelle Ankara, qui aurait fondé un royaume suite au pillage du sanctuaire de Delphes auquel il se serait livré en 279 avant Jésus-Christ. On sait aussi par le même auteur qu'il y a un autre groupe de ces Volques Tectosages qu'on aurait retrouvé en Pannonie. On sait par César aussi qu'il les aurait localisés dans la région de la forêt hercynienne, donc en pleine Germanie. Donc un dossier extrêmement complexe avec des Volques Tectosages qui apparaissent en différents points de l'Europe.
Alors disons-le, la Pannonie, d'après mes souvenirs, c'est la Hongrie, ça doit être à peu près ça.
Oui, hein, grosso modo,
le pays de la Bohème, des Boyens, tribus gauloises, est aussi extrêmement importante. Sur cette genèse de ce peuple, qu'est-ce que l'on sait? Ils viennent de l'Est, ils viennent de l'Ouest, comment ça se passe? Visiblement, ça bouge beaucoup.
Pendant longtemps, les érudits, les historiens ont écrit que les Volques Tectosages venaient de l'Est et auraient colonisé le Languedoc guerre avant le 3e siècle avant Jésus-Christ. En fait, quand on regarde les textes antiques de plus près, qui sont les seuls éléments qui peuvent nous parler et nous donner quelques informations sur la genèse de ce peuple, on a plutôt l'impression aujourd'hui, en regardant les textes de près, en les traduisant sans a priori, que c'est un phénomène inverse qui se serait produit, à savoir un grand peuple à l'histoire mythique, ça c'est ce que nous dit Strabon, pas de raison de douter de ça, originaire du sud-ouest de la Gaule, comme les Biturriges sont un des grands peuples originaires du centre de la France, donc c'est ces grands peuples installés depuis très longtemps, qui auraient peut-être par groupe ou dans le cadre de ces migrations liées au mercenariat, colonisé ou se seraient répandus en différents points de l'Europe. Donc on est plutôt dans un mouvement d'ouest en est que d'est en ouest.
Michel Vaginet, on sait bien sûr que les Celtes les plus orientaux sont les Galates, qu'ils vivent donc en Asie mineure, l'actuelle Turquie, qu'ils ont été mercenaires. On peut penser que justement ces Volsques aient contribué à l'édification de cette société galate. Alors, on part de Toulouse et on se retrouve en Turquie, c'est assez curieux.
C'est une des questions que se posent les chercheurs aujourd'hui. Quel est le degré de relation, je dirais, entre les Volsques tectosages du sud-ouest de la Gaule, dont Toulouse était sinon la capitale d'une des grandes villes, et avec ces Galates et cette fraction Galate qui était les tectosages qu'on trouve dans cette région d'Ankara.
Alors vous m'avez parlé de Stravon, bon, vous m'avez parlé aussi de César. Curieusement, vous ne m'avez pas parlé de Posidonios d'Apamée. Peut-être le seul qui est vu relativement tôt, justement, Toulouse, la Toulouse des fouilles dont nous allons parler.
Alors, je n'en ai pas parlé parce qu'effectivement, c'est un auteur qui écrit au tournant du 1er siècle avant notre ère, vers les années 100-110. Malheureusement, la plupart de ces textes ont disparu et nous ne connaissons pratiquement de ces textes que ce qui en est cité par Strabon. Donc, c'est au travers de Strabon qu'on connaît Posidonios. Parce que Strabon en a fait une de ses principales sources. Et c'est ce qui nous permet de dire, au travers de Strabon, que les Volsques tectosages et Toulouse étaient une grande ville, au moins, disons, à partir de la fin du IIe siècle avant notre ère.
Et puis, je disais dans le chapeau du Salon Noir que les Volsques tectosages étaient ceux-là même qui avaient pillé le sanctuaire de Delphes et qu'ils avaient ramené une sorte de fabuleux trésor, le fameux trésor de la légende de Laure de Tolosa. Alors bon, rapidement, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que c'est réellement ces Gaulois qui ont détruit Delphes ? En tout cas, on est sûr que les Gaulois aient détruit Delphes.
Ce qu'on sait, c'est qu'on a effectivement des groupes de Gaulois qui vont s'attaquer au sanctuaire de Delphes en 279. Après, le reste, l'or des Tolosates, vous l'avez dit vous-même, c'est effectivement une belle légende qui est rapportée par Strabon, mais qui, citant deux sources, se distancie de l'une pour favoriser l'autre. Donc, il cite deux sources, Timagène, qui ferait effectivement un lien entre l'or des Tolosates pillé par le général romain Caepio qui vient en 105-106 avant notre ère mater une révolte des tectosages, et puis l'or du sanctuaire de Delphes qui aurait disparu donc en 279. Strabon met en doute cette hypothèse-là citant Posidonios, considère que cet or des Tolosates est plutôt une origine locale parce que c'est un peuple riche en or sur son territoire, et de fait l'archéologie nous confirme que dans le territoire tectosage et dans tout le sud-ouest, on a de l'exploitation de l'or, on a le travail de l'or, etc.
Et l'or, qu'est-ce que l'on en faisait réellement ? Ça partait, semble-t-il, plus vers le sanctuaire que pour les habitants ?
Alors là aussi, Strabon. Et seulement Strabon, ou d'autres auteurs antiques, mais enfin surtout Strabon, qui nous dit qu'effectivement, à Toulouse, les sanctuaires étaient très sacrés, qu'on y mettait sous la protection des dieux des trésors d'or et d'argent, et de meules d'argent brut et d'or brut. En grande quantité et en très grande quantité.
Alors j'ai fait un rapide calcul. La période gauloise couvre à Toulouse 190 hectares de vestiges. La ville romaine 80, donc bien en deçà de la moitié. Cela montre-t-il le dynamisme de cette cité à l'époque gauloise ?
Oui, à l'évidence, tout ne se règle pas par des questions de superficie, mais il est évident, si on ajoute si on cumule les superficies des différents points occupés au deuxième, premier siècle avant notre ère, que Toulouse était une très grande agglomération et une très grande plaque tournante économique et vraisemblablement, évidemment, politique. Du même fait.
200 hectares à peu près, c'est une grosse cité gauloise. On en a des plus grosses quand même, ça va jusqu'à 350 d'après ce que j'ai vu.
Oui, alors là aussi les choses sont compliquées parce que là dans ce cas, quand on dit Toulouse 190 hectares, c'est qu'on cumule les différents secteurs a priori assez densément ou moyennement occupés. Et puis vous avez d'autres phénomènes, quand on dit 300 hectares, voire 1500 hectares, les grands oppidas qu'on peut trouver jusqu'en Europe centrale, ce sont des surfaces encloses mais pas forcément occupées. Donc là aussi, il faut savoir ce qu'on compare. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Toulouse, effectivement, on a On a un très vaste ensemble aggloméré avec une occupation dense.
Et le phénomène urbain chez les Gaulois, il a été souvent incompris, notamment des historiens. Il a une vraie réalité. Quand émerge-t-il à peu près dans la Gaule indépendante? Vers le 3e siècle de notre ère, on voit commencer à émerger des villes.
On va dire qu'il y a un consensus assez large des chercheurs aujourd'hui, des archéologues, pour considérer qu'effectivement, il y a bien eu une ville en Gaule, que certes, elle ne ressemble pas à ce qu'était la ville romaine, et c'est pour ça, pendant longtemps, l'archéologie ayant, je dirais, pris le point de vue je voulais dire du colonisateur, un peu de manière un peu provocatrice, c'est-à-dire le point de vue romain ou l'idéologie romanisante pour être encore plus brutale, on n'a pas vu de ville en Gaule parce qu'effectivement les villes gauloises ne ressemblaient pas aux villes romaines.
Et le phénomène urbain chez les Gaulois, donc, comment vous dire ça, il y a encore débat, par exemple, sur la localisation de la ville gauloise de Toulouse. Aujourd'hui, alors, certains historiens pensent que...
Oui, il y a débat, pour une raison bien simple, c'est qu'il y a plusieurs lieux qui peuvent prétendre à être la capitale de cité. Je dirais que c'est l'abondance de biens et de données archéologiques qui nuit à la compréhension du site. Puisque vous avez d'un côté le site de Hauteur, vraisemblablement entouré d'un rempart, vieille Toulouse, plusieurs dizaines d'hectares densément occupés au 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous avez le secteur en plaine, sans doute une agglomération ouverte dans le secteur de Saint-Roch, la Fouille de Niel, qui nous occupe aujourd'hui, et là vous nous en mettez encore ou bien 60, 70, 80 hectares, et vous avez un troisième secteur qui est occupé encore de l'autre côté de la Garonne. Donc, est-ce que chacun de ces sites peut être la Toulouse? Est-ce que c'est chacun de ces sites qui est constitutif de Toulouse gauloise à un moment ou à un autre? Voilà le nœud du débat.
Bien sûr, et puis il y a forcément un problème de chronologie. Quand peut-on parler pour la première fois d'une véritable agglomération à Toulouse? Justement, toujours ce 3e siècle, peut-être même un peu après.
Les données les plus récentes de l'archéologie nous montrent, je pense, la Peter Hewitt pourra affiner les choses, que tant sur le site de Vieille Toulouse que dans le quartier Saint-Roch, donc ils sont à 4 km l'un de l'autre, les premiers objets, les premières traces d'occupation apparaissent à la fin du 3e siècle, avant notre ère, et l'occupation se développe vraiment, on va dire, allez, dans les années 150, 170 avant notre ère, grosso modo, donc courant du 2e siècle.
Cela veut-il dire que l'on n'a aucun vestige de Gaulois avant ces dates-là?
Alors, c'est plus compliqué que ça. À l'évidence, ces agglomérations se fondent et se développent à partir de la première moitié du 2e siècle avant notre ère. Mais il y a quand même des occupations gauloises dans la région bien avant. Elles sont ténues, elles sont mal connues encore aujourd'hui, parce qu'on a du mal à identifier ces périodes entre le 5e et 3e siècle avant notre ère. Mais il y a une occupation, elle n'est pas encore polarisée, rassemblée dans des sites agglomérés.
Quels sont les éléments qui vous permettent réellement de dire que nous sommes ici sur un véritable phénomène urbain? Je pense qu'on peut poser la question tant à Michel Vaginet qu'à Peter Hewitt. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire que nous sommes réellement sur une ville?
Je pense déjà par contraste avec l'occupation rurale qui est, disons, normale, habituelle chez les Gaulois. Au 3e, 4e siècle, on n'a pas d'agglomération gauloise, on n'a même pas de village. On n'a que les fermes isolées et tout le monde vit sur ces fermes dispersées dans le paysage. Et à partir de la fin du 3e siècle, on a le phénomène de la création d'agglomérations, de véritables agglomérations avec des centaines d'habitants. Et les archéologues, de plus en plus, ils voient ça comme cœur du phénomène de l'urbanisme. On a essayé de lier le terme de ville avec la seule présence d'une fortification, par exemple, mais on a découvert des sites comme Saint-Roch ou d'autres sites très très vastes et très très intéressants, mais qui sont pas fortifiés, qui se trouvent dans la plaine, mais où on a vraiment il faut parler d'agglomération gauloise.
Toulouse a un véritable rempart à l'époque gauloise?
Le site de Vieille Toulouse, qui est un site de hauteur, qui domine la Garonne de plus de 80 mètres, est déjà en soi naturellement protégé. L'archéologie ne nous permet pas aujourd'hui d'identifier avec certitude l'existence d'un rempart. Il y a des éléments qui nous laissent à penser qu'on a vraisemblablement un rempart autour du site de Vieille Toulouse, mais mal attesté pour le moment.
Donc Toulouse sans rempart, ça pourrait être un gros bourg, mais ce n'est pas un gros bourg parce que j'imagine que vous avez des maisons qui s'organisent, vous avez aussi peut-être des voiries, des places, ce genre de choses.
C'est plutôt le cas à Vieille Toulouse. où on voit dès le début une occupation structurée avec une sorte de îlot, de quartier bien organisé avec des voiries. Par contre, sur le site de Saint-Roch, jusqu'à maintenant, on n'a trouvé aucun élément précis de voirie, à l'exception de la grande voie romaine qui traverse le site. Et c'est un site beaucoup moins structuré.
Dans cette longue histoire, donc, trois lieux sont capitaux pour la ville protohistorique, Vieille Toulouse, le quartier Saint-Roch et Ancely. Ces trois lieux n'ont-ils pas tout simplement des fonctions différentes?
C'est une excellente question. Probablement, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut, je pense que si on veut arriver un jour à comprendre ce qu'était Toulouse à l'époque gauloise, comment fonctionnait le site d'Ancely, qui est un petit éperon barré au confluent de la Garonne et du Touche en rive gauche de Garonne, en aval de la Toulouse romaine et actuelle, le site du quartier Saint-Roch qui est au pied des collines où se trouve installée Vieille Toulouse, tout ça en rive droite, on a trois ensembles. On peut imaginer soit que l'un de ces trois était Toulouse à l'époque gauloise, et on peut imaginer aussi que deux ou trois de ces trois sites étaient Toulouse à l'époque gauloise. Mais là aussi, on a une occupation sur deux siècles, avec des phénomènes, on sait que ces peuples-là sont mouvants, bougent. Il y a des phénomènes de clientélisme, de scission, on parle de synésisme aussi pour les cités grecques, on peut employer le même phénomène ici, c'est-à-dire de subdivision, de rassemblement. Donc on peut imaginer qu'on n'ait pas la même réalité au IIe siècle et au courant du 1er siècle avant notre ère.
On sait que, de toute manière, le site de Vieille Toulouse aurait été lié à l'aristocratie, plutôt ?
Disons que, de par sa position, c'est un site dominant. Donc, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais entre s'installer en position dominante et vouloir dominer le territoire, les deux s'enchaînent assez bien. Ce qu'on sait, c'est qu'à Vieille Toulouse, on a effectivement une véritable ville très organisée, avec des îlots, des voiries, etc. On sait qu'on a un pouvoir religieux qui est là, puisqu'on a des sanctuaires avec des inscriptions antérieures au milieu du 1er siècle, aux alentours du milieu du 1er siècle avant notre ère.
Qui raconte quoi ?
Qui mentionne l'existence justement d'un sanctuaire, de temple, etc. On sait qu'on a un pouvoir économique, on bat monnaie à Vieille Toulouse, c'est évident. Donc on est à l'évidence sur un lieu de pouvoir.
Économique et politique.
Économique et politique et religieux, tout ça se tient ensemble. Hein. On ne dissocie pas le religieux du politique dans ces sociétés-là.
Alors évoquons Saint-Roch, le deuxième site, puisque la caserne Niel s'y trouve. Peter, justement, c'est le quartier que vous avez fouillé et ce serait le quartier dominé sous l'acropole de Vieille Toulouse, c'est bien ça ?
Je ne suis pas sûr, parce que déjà il y a une certaine distance entre les deux sites et on peut aussi voir que le site de Saint-Roch, il est plus adapté peut-être à d'autres fonctions. Il est dans la plaine, il est plus accessible, il est au bord de la Garonne, voie de transport important, voie de communication importante. Et là, je vois quelques avantages pour la situation du site de Saint-Roch par rapport au site de Vieille Toulouse, qui est peut-être plutôt dans une conception plus ancienne et plus conservateur, parce que c'est une place qui était déjà été utilisée à l'âge du bronze, et c'est plutôt cette conception-là de peut-être une tendance de s'isoler, de se protéger, et le site Saint-Roch, il me semble d'être peut-être dans sa conception plus moderne.
En tout cas, vous avez des activités artisanales extrêmement nombreuses. On y travaille le métal, on y travaille beaucoup de choses dans votre quartier, ce que vous avez fouillé.
Oui, ça c'est très très intéressant. Et en plus, on voit que la technique utilisée, c'était une technique aussi, il faut dire, à la hauteur du temps. Il y avait apparemment des innovations. Et ce qui est aussi intéressant, que le secteur où on a travaillé le métal était séparé de la zone d'habitat proprement dit.
Pour nos auditeurs de France Culture, je rappelle que le Salon Noir tente de percevoir l'antique Tolosa, des Tectosages, donc des Gaulois, sous la ville moderne de Toulouse, avec Michel Vaginet, qui est conservateur régional de l'archéologie, et Peter Jude, qui est archéologue dans la société suisse Archéo de Noum. Qu'est-ce qui fait la richesse de cette cité ? Quelles sont ses ressources à l'époque gauloise ?
Déjà, on a parlé que dans les textes, on parle de l'or, qui est la richesse des Tectosages. Mais là, sur le moment, on n'a pas de preuves archéologiques pour. C'est peut-être seulement une légende ou une explication pour la présence de l'or dans les sanctuaires. On a trouvé quelques traces aussi du travail de l'or, mais dans une quantité absolument, disons, normale et quotidienne. Moi, je pense que la ressource principale de ce peuple, bien sûr, est comme pour tous les peuples gaulois de cette époque, c'est l'activité agro-pastorale. Mais en plus, ce qui s'ajoute dans ce cas-là, c'est la vraie richesse, c'est la position géographique. Sur cette route très très importante entre la Méditerranée et l'océan Atlantique.
Oui, parce qu'il faut le dire, ce sont des milliers d'amphores que vous avez retrouvées dans votre fouille. Sur un peu plus de 2 hectares, c'est 200 000 litres de vin. Comment expliquez-vous ce phénomène? On serait sur un phénomène de transvasement ou tout ça a été bu sur votre chantier?
Il a certainement... présence d'un changement de conteneur. Ça, c'est tout à fait clair, mais il me semble que pour le moment, que c'est plutôt un épiphénomène. Je pense que la plupart des amphores témoignent d'une consommation forte d'un projet de l'X. Et là, je pense que c'est la richesse qui se manifeste dans cette consommation. Et là, peut-être sa source dans l'implication des tectosages dans le transport même de ces amphores et du vin, des péages, des frais de protection, des frais de transport qu'ils ont encaissés et qui a fait la richesse de ce peuple.
Michel Vaginet, vous parliez de l'explosion du marché du vin dans les années 150 avant notre ère. C'est une véritable explosion. D'un seul coup, on se met à transporter comme ça du vin.
Oui, c'est ce qui
est... jusque visiblement très loin.
Oui, c'est ce dont témoigne l'archéologie, hein, c'est qu'effectivement, avant le milieu du IIe siècle, l'amphore dans le sud-ouest et la région toulousaine apparaît peu, et le site d'ailleurs de Toulouse est pratiquement inexistant ou très peu développé. Et puis brutalement, vers le milieu du deuxième siècle, effectivement, ce commerce explose. Les amphores arrivent en quantité monstrueuse et on les retrouve tout le long de l'axe garonnais, l'isthme gaulois dont parlait déjà Strabon, et en remontant jusque l'actuelle Bretagne.
Alors les puits gaulois de Toulouse sont extrêmement célèbres chez les archéologues de l'âge du fer, notamment ceux de vieille Toulouse. Il s'agit en général de fouilles anciennes. Vous en avez refouillé, vous, cette année, Peter Jude, donc dans les fouilles de la caserne de caserne Niel. S'agit-il réellement de puits funéraires, témoins de rites barbares, voire atroces, propres justement à ces Gaulois du sud-ouest de la France? On a des squelettes dans ces puits, il faut le dire.
Les puits funéraires, c'est un mythe. Et c'est un mythe qui est mort maintenant, j'espère bien. Et c'est un phénomène très, très intéressant qui remonte, il faut le dire, jusqu'au XVIIe siècle, où les érudits du Toulousain ont trouvé les premiers amphores et qu'ils ont interprété comme étant des urnes funéraires. Et de là jusqu'au 19e siècle, ce mythe s'établit sans vraiment avoir la preuve de sépulture dans ces puits. Maintenant, on est sûr d'être en présence de structures qui sont liées avec un habitat et qui sont sans doute, au moins initialement, que ce sont des puits à eau, tout simplement.
Et transformés en poubelles, c'est un peu triste tout ça. Michel Vaginet, vous êtes d'accord avec cette idée? On trouve quand même des personnages quelquefois accroupis, assis dans ces puits.
Oui, mais ça n'en fait pas pour autant des puits funéraires. Je suis totalement d'accord avec Peter Jude pour éliminer purement et simplement la vocation funéraire de ces puits-là. Je crois qu'il y a deux légendes à Toulouse, il y a l'or et puis les puits funéraires. Alors après, ces structures, elles ont en commun de s'appeler puits parce qu'on les a désignées comme telles, mais quand on les regarde de près, on a des structures qui peuvent être de morphologie très différente. Elles ont comme trait commun d'être plus profondes que larges. C'est pour ça qu'elles ont pris le terme de puits. Mais après, sont-elles toutes allées jusqu'à la nappe phréatique? Est-ce qu'il y a des citernes au sens strict et ensuite des puits? Ensuite, il faut distinguer la raison pour laquelle on a fait ce trou et on l'a utilisé ouvert de ce qu'on a pu en faire une fois qu'on a voulu le fermer. On peut parfaitement avoir des dépôts de type symbolique au moment de la fermeture d'un puits, comme on peut avoir des dépôts de sacrés sacralisation, on les trouve à l'époque romaine aussi, dans des puits qu'on ouvre, frère, divinité des eaux, des choses comme ça. Voilà, faut pas.
Et puis l'avantage de ces puits, c'est que cela conserve très bien. Et 5500 objets en bois provenant donc de ces puits, tous conservés, ceux que l'on ne retrouve jamais sur une fouille normale, ont été exhumés. J'en prendrai quelques-uns pour exemple. Des tablettes, les fameuses buxies sur lesquelles on peut écrire. C'est bien ça, Peter Yud?
Oui, c'est une découverte très très intéressante et très très importante. Mais déjà, elle prouve que tous ces objets-là étaient sous l'eau pendant 2000 ans. Ça veut dire que ces puits, c'est aussi ce qu'on a constaté par les recherches géomorphologiques, que ces puits ont systématiquement cherché la nappe phréatique. Et dans ces couches les plus profondes des puits, des objets en matière organique se sont conservés, pas seulement des bois, mais aussi des objets en cuir, des restes organiques, des grains, des noisettes, des objets vraiment très, très intéressants, de la poix, des objets de différentes
matière, notamment oui. Un bouchon en liège. J'ai trouvé le bouchon en liège très intéressant. C'est genre général, ce que l'on n'a jamais.
Ben des, oui, forcément. Ouais,
des douzaines de. Et en plus, ces bois vont nous fournir des dates d'ordre chronologique. J'espère bien qu'on va disposer de ces dates l'année prochaine.
Et puis une petite statuette en bois, on sait la rareté aussi des figurations gauloises humaines. Et donc une petite statuette en bois, c'est toujours très très intéressant, j'imagine.
Oui, ce sont des objets extraordinaires, touchants, qui, même chez les archéologues, on ne peut pas regarder ces objets-là sans sentir des émotions fortes, parce qu'ils sont vraiment des choses extraordinaires.
Michel Vaginet, nous savons que les artisans et commerçants donc, œuvrent dans le quartier Saint-Roch, sous la caserne Niel, que l'aristocratie se tient sur l'acropole, à la vieille Toulouse. N'y a-t-il pas conflit d'intérêts, des luttes entre les deux systèmes, les deux pouvoirs?
Si, c'est fort probable. C'est pour ça que je pense que la moins mauvaise manière d'expliquer l'existence de plusieurs points de fixation de l'habitat dans la région toulousaine, c'est de parler de pulsation. C'est que dans un premier temps, je pense qu'on a vieille Toulouse qui est un lieu de pouvoir dominant au pied duquel va se développer un marché. On peut imaginer cette hypothèse-là. Et puis ce marché prend tellement effectivement d'expansion parce que la principale ressource, c'est précisément le commerce, qu'à un moment donné, les artisans et les commerçants qui sont là se trouvent en conflit avec les aristocrates qui ont bâti plutôt leur pouvoir sur le foncier. Donc il y a conflit et peut-être reprise en main du pouvoir par ces aristocrates qui étaient à Vieille-Toulouse et en recentrant l'occupation et en ramenant tout le monde à Vieille-Toulouse, ce qui pourrait expliquer la disparition de l'occupation du quartier Saint-Roch aux alentour du tournant du premier siècle avant notre ère. Enfin, c'est une hypothèse.
Michel Vaginet et Peter Jude, merci beaucoup. Donc, il faut rappeler aussi une exposition sur cette fouille de la caserne Niel qui se tient actuellement au musée Saint-Raymond de Toulouse, forcément, bien sûr, et cela jusqu'au mois de novembre. Et puis, un numéro est consacré aussi à Toulouse de la revue Archéothéma. Et puis, une nouvelle grotte en Ardèche, juste un point d'actualité, vient d'être découverte. Elle n'est absolument pas encore localisée précisément. Elle a été découverte par des spéléologues et contiendrait pour l'instant une peinture de cheval et une trace de main humaine dite positive. Et elle date très probablement du Magdalénien, disons il y a 17-15 000 ans. Nous y reviendrons. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré au Moyen-Âge, du moins à ce que les archéologues en retrouvent avec Isabelle Catédu. Le Salon Noir était réalisé par Brigitte Mazir, à la technique Jacques Hubert, attaché d'émission Yaël Mandelbaum. Vous pouvez écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.